Alors, je vais commencer par la lecture du texte de ce matin, qui est la lettre que Jésus adresse à l'église de Smyrne. Donc, à nouveau, c'est une des sept églises localisées en Asie mineure. Cette lettre est adressée vers la fin du 1er siècle. Et la lecture que je vais en faire n'est pas une lecture prophétique que pourrait bien symboliser cette église, mais simplement contextuelle et historique. Donc, voici le texte. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écris aux messagers de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, l'accusateur jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, la seconde mort ne lui nuira pas. L'écran s'est éteint, c'est normal? Ok, parce que je ne vois plus le milieu. Voilà. Alors, en guise d'introduction, et ensuite, j'aurai 3 parties. En introduction, ce qui me frappe en premier quand je lis ce texte, c'est la sobriété de la présentation de Jésus à l'église de Smyrne. Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et d'emblée, donc par là, l'accent de cette lettre est mis sur la croix de Jésus, qui a été le premier martyr, mais le mot martyr veut dire témoin. Donc il a été le premier témoin martyr pour la foi qu'il avait en son Père, le premier martyr de la Nouvelle Alliance. Alors, première question à l'Assemblée, pour vous rendre participant. Qui a été le premier témoin et martyr rapporté dans la Bible? Qui est le premier témoin et martyr dans la Bible?
Abel.
Abel, très bien. Effectivement, vous lisez son histoire dans Genèse 4, et dans Hébreux 11, il est le premier des héros de la foi qui est mentionné. Et on remarquera qu'Abel a été mis à mort dans un contexte religieux, puisque c'était un conflit d'offrandes. Caïn, son frère, offrant des offrandes issues de son propre travail, à la sueur de son front, là où Abel, reconnaissant qu'il ne pouvait rien offrir de lui-même à Dieu, a sacrifié les agneaux et a donné le sang et la graisse. Il a reconnu par là qu'il était pécheur et ne méritait que la mort. C'est pour ça qu'il est qualifié d'héros de la foi. Et c'est le premier témoin martyr dont il est question de la Bible. Alors, j'ai entendu un autre martyr évoqué tout à l'heure, le premier de la Nouvelle Alliance, à part Jésus. Étienne, dans Acte 7. Donc, c'est le premier témoin que l'on voit mort pour sa foi à cause de la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus. Et à la suite d'Abel, Jésus, Étienne, il y a toute une liste de martyrs donc, tout au long des siècles de l'ère chrétienne jusqu'à aujourd'hui encore. Et j'apprécie à chaque fois que Phil nous rappelle voilà, que si nous vivons pour le moment dans un contexte plutôt confortable en Occident, il y a d'autres chrétiens dans d'autres sphères de la planète qui connaissent cette douleur du témoignage, voire le martyr. La deuxième chose qui me frappe, c'est ce qui est au cœur de la lettre de Jésus à Smyrne. Vous ne pouvez pas le voir directement, et je n'ai pas forcément distribué un texte à chacun, mais en fait, cette lettre est bâtie sous la forme d'un chiasme, c'est-à-dire une série symétrique avec un début correspondant à la fin, et dès qu'on discerne un chiasme, on regarde ce qui est au centre. C'est-à-dire que l'important est au centre. Et ce qui est au centre, c'est cette parole-là, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Et c'est intéressant que le mot grec employé ici pour souffrir, c'est le même mot dans la racine à donner, la Pâque. Donc, ne crains pas la Pâque que tu vas souffrir. Ça nous alerte immédiatement au fait que Jésus a connu ce que Smyrne connaissait et Jésus connaît ce que nous connaissons quand nous sommes dans la souffrance. Et ce n'est pas simplement un sentiment de compassion, souffrir avec, mais dans l'union à Jésus, quand nous souffrons, il souffre. Donc vous voyez, quand un membre souffre, l'autre souffre. Quand le corps souffre, la tête souffre. C'est plus qu'une simple compassion, c'est une souffrance avec. Et on peut avoir cette certitude que lorsque nous avons mis notre confiance en Jésus, il connaît nos souffrances. Que ce soit des persécutions extérieures ou la lutte contre la chair à l'intérieur. Donc la clé de cette compassion, c'est l'union à Jésus. Enfin, dans la lettre de Jésus à Smyrne, il est aussi question de tribulation, mais vous remarquerez que la durée est limitée, ici à 10 jours, ce qui renvoie à ce que Jésus annonçait dans Matthieu 24, dans son discours sur le mont des Oliviers. Il y aura une tribulation telle que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, les jours seront abrégés. Donc, ayons cette confiance que les temps de souffrance ont une limite, Dieu place les limites, puisqu'il dit par ailleurs que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Donc il met une limite pour être sûr que ça n'aille pas au-delà de ce que nous pouvons porter. Il est également question dans la lettre de pauvreté matérielle, mais Jésus dit « et pourtant tu es riche, riche de l'esprit, riche de la foi ». Et enfin, il est question des calomnies, que je veux mettre en opposition avec la parole de témoignage, la vérité de la parole, qui est la seule épée qui nous a été donnée, l'épée de l'esprit. Donc voilà les termes. Et ce qui est intéressant dans cette lettre à Smyrne, adressée à une église martyre, Jésus ne lui fait aucun reproche. Et là encore, sans m'attarder là-dessus, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, on a encore dans ces lettres une construction en chiasme. La deuxième Smyrne et la sixième qui lui correspond, Philadelphie, sont les deux églises à qui Jésus ne fait aucun reproche. Le thème central de ce que je vais dire ce matin, c'est l'articulation entre la mort et la vie, ou plus précisément le passage de la mort à la vie. Et donc j'ai une deuxième question pour l'Assemblée. Pouvez-vous m'énumérer les différents types de mort dont il est question dans la parole? Ne cherchez pas compliqué. Quels sont les différents types de mort dont il est question dans la parole? Un peu plus fort. Alors, la mort physique et la mort spirituelle. Donc, j'ai envie de dire la mort spirituelle dont la conséquence est la mort physique. En voilà deux. Il y en a deux autres auxquels je pense.
La mort à
soi-même. La mort à soi-même. Ça va être le cœur de ce que je vais dire aujourd'hui. Et enfin, il y a une dernière mort, la quatrième, qui est mentionnée en fait dans la promesse à celui qui vaincra. La seconde mort, qui est la mort éternelle, qui est la mort, l'éternité loin de Dieu. Donc, la mort spirituelle, à cause de la désobéissance d'Adam, qui induit la mort de nos corps, ce qui a nécessité l'incarnation du Fils pour porter notre mort à notre place. Ensuite, on a dit la mort à nous-mêmes. Donc, il y aura différentes manières de qualifier cette mort-là, on va le voir. Et ensuite, la mort éternelle, qui est la seconde mort. Face à la mort, que ce soit la mort naturelle ou la mort, qui est également la mort physique, mais la mort due au martyr, il peut y avoir deux réactions complètement opposées. La première, c'est la recherche téméraire de la mort, la recherche du martyr. Et toujours dans les fanatismes de quelque religion que ce soit, on trouvera toujours ceux prêts à se sacrifier au nom de leur idéal. C'est une recherche de la mort. Mais on trouve ça également dans l'humanisme, dans des révolutions athées dans lesquelles on est prêt à sacrifier sa vie pour un idéal. Et pourtant, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 que même si je livrais mon corps à la mort pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire si je n'ai pas Jésus, au travers de cette mort-là, elle ne sert à rien. En tout cas, elle ne peut certainement pas nous racheter. Mais à l'opposé de la recherche téméraire de la mort, il y a une crainte excessive de la mort. Et en général, cette crainte-là, elle est instrumentalisée par la peur qu'on instille. Alors, toute allusion au contexte actuel n'est pas fortuite, mais je ne vais pas développer cet aspect-là. Mais quand on développe la peur chez quelqu'un, on en fait ce que l'on veut. Donc, face à cette crainte de la mort, la tentation, c'est de fuir toute menace de mort. Mais là encore, en particulier dans le contexte du témoignage, si nous fuyons le témoignage rendu à Jésus, si nous le renions devant les hommes par crainte de l'opposition, voire la souffrance, voire la mort, là encore, cette stratégie de fuite ne nous sert à rien, puisque Jésus n'est pas dedans. Alors, quelle est la troisième voie? La troisième voie, la confrontation à la mort, passe par un préalable, c'est la confrontation à notre mort en Jésus. Et donc à notre union en Jésus dans la mort, dont il est question en particulier dans Romains 6. Et pour montrer cette articulation-là, je vais vous lire donc deux versets dans Hébreux 2, versets 14 et 15. « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Juste pour expliciter un tout petit peu, il y a un lien très fort entre la crainte que nous pouvons avoir de la mort et le fait que Jésus est passé devant par la mort et la résurrection de telle manière à nous permettre de confronter la mort, qui est le résultat de notre culpabilité, qui est le résultat de notre nature de péché, qui est le résultat de notre condamnation naturelle en tant que fils d'Adam, confronter cette crainte-là de la mort pour la passer et la dépasser en Jésus. En union, à chaque fois je ferai ce signe-là pour bien dire l'union à Jésus. Et donc j'ai résumé cela en une phrase, ne plus craindre la mort, c'est être déjà mort. Pour ne plus craindre la mort, il faut être déjà mort. Et c'est le cas de l'église de Smyrne, qui avait encore un peu la crainte de la mort, mais Jésus lui dit, prends courage, je suis déjà mort, je suis déjà ressuscité. Donc tu passes avec moi dans la mort. Alors plutôt que d'aborder cette question du thème du passage de la mort à la vie de manière un peu théorique, avec Romains 6, les deux volets de Romains 6, etc., etc., ça va être un petit peu abstrait. Donc je vais prendre un exemple très concret. Et là maintenant vous commencez à avoir le lien avec l'histoire d'Abraham, puisqu'en fait je vais dérouler l'histoire d'Abraham sous l'angle de la mort et de la vie. Et on va voir très concrètement comment Dieu a procédé avec Abraham. Abraham a vécu bien avant la loi, c'est le père, l'exemple même du croyant, donc ça va nous parler, je l'espère, directement. Je vous rappelle que Jacques et Paul, dont on a lu les passages tout à l'heure, fondent toute leur démonstration de la vie de foi sur l'exemple d'Abraham. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai relu évidemment cette histoire, donc il va de Genèse 12 à Genèse 22 pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Genèse 12, l'appel à quitter la patrie, et Genèse 22, le sacrifice d'Isaac. Dans toute cette période-là, Abraham, devrais-je dire, et Sarai, c'est vraiment ce qui m'a frappé. J'ai eu vraiment l'impression qu'ils étaient tous deux, alors pour employer un vocable peut-être pas familier à certains, ils étaient tous les deux sous une puissance de mort. Vous allez comprendre pourquoi. Abraham exprime à chaque fois sa crainte de la mort. Dans Genèse 12, vous vous rappelez, lorsqu'il descend en Égypte, sa femme, Sarai, est très belle. Les Égyptiens la convoitent, le pharaon la convoite. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Oh, ils me tueront, ils me tueront. Donc dis que tu es ma sœur, afin que mon âme vive grâce à toi. » Une crainte de la mort. Mais même en Genèse 20, lorsqu'il va rendre visite à Abimélec, je reviendrai sur cet épisode après, mais je note juste que là encore, malgré son âge, Sarai était encore très belle. Et cette fois, c'est la convoitise d'Abimélec qui est éveillée. Et à nouveau, il dit à Sarah, « Oh, on me tuerait à cause de ma femme !» Même de Genèse 12 à Genèse 20, ce qui semble parcourir la vie d'Abraham, c'est la crainte de la mort. Mais c'est vrai également pour Sarai. Non pas parce qu'elle craignait la mort, mais parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas engendrer la vie. Genèse 11, Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Genèse 16, Sarai dit à Abraham, « L'Éternel m'a rendu stérile. » Et donc j'ai l'impression, ça a vraiment été, vraiment ressenti comme ça, que ce couple est frappé d'une puissance de mort. Lui par la crainte de la mort et elle par sa stérilité. On comprend d'autant plus tout le travail que Dieu va faire pour les délivrer de cette puissance de mort et en faire jaillir une foi ferme et solide en la puissance de la résurrection. Et c'est tout le chemin de Genèse 12 à Genèse 22. Bon, l'écran est noir, je ne vois pas le temps qui passe. Donc ça, je pense que c'est le thème central. Et pensons à notre société aujourd'hui, dont les valeurs qui sont promulguées depuis quelques décennies promeuvent la stérilité et la mort. On est dans ce même contexte-là, et il s'agit de ne pas être happé par cette hantise. La mort et la stérilité. Et c'est par sa foi que Abraham, alors en hébreu c'est le père élevé, en mésopotamien c'est celui qui aime son père, Abraham devient Abraham, le père d'une multitude. Alors là je parle sous le contrôle d'un sémitisant. Et de la même manière, Sarai, qui veut dire ma princesse à moi, à Abraham, devient Sarah, la princesse, d'où sortent des rois et des peuples, par Isaac. Ces deux changements de nom, vous les trouvez dans Genèse 17. Et donc j'ai vu dans l'histoire d'Abraham une illustration de notre propre chemin expérimental de foi, et j'insiste sur le mot comme à chaque fois, expérimental. Et donc le message va être découpé en trois parties, qui vont nous illustrer le passage d'une puissance de mort à la puissance de la vie. Genèse 12 à 14, qui est l'appel et la réponse obéissante d'Abraham. Ça va être quelque part une mise à mort quant à ses origines. Ensuite, de Genèse 15 à 21, donc Abraham reçoit la parole qui le justifie et nous allons néanmoins voir encore les stratégies charnelles qu'il va mettre en place pour tâcher d'accomplir la parole de Dieu, la promesse de la postérité. Et en Genèse 22, nous avons la pleine victoire de la foi d'Abraham, sa victoire sur sa crainte de la mort. Et nous allons voir comment. Alors, première partie, la sortie d'Abraham de son pays natal. Hébreux 11, verset 8-9, nous rappelle que c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Les mots-clés par lesquels l'auteur de l'Épître aux Hébreux qualifie le départ d'Abraham de son pays natal, c'est appel, foi, obéissance. La foi est la réponse à l'appel et la foi est indissociable de l'obéissance. C'est le propos de Jacques, il n'y a pas de foi sans œuvre de la foi et l'œuvre de la foi, ça ne vient pas de nous, C'est une obéissance à ce que nous entendons. Donc il n'y a pas à se justifier par l'obéissance, puisqu'elle vient de Dieu, elle nous est demandée en réponse à la parole de Dieu. Donc nous n'avons pas le choix. Hébreux 11, là encore, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Mais l'épître de Jacques nous dit que croire que Dieu existe ne suffit pas, parce que ça ramènerait la foi à celle des démons. Mais surtout, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand on cherche le mot rémunérateur, j'aimerais le traduire par le germinateur, le fructificateur. Je ne sais même pas si ce mot existe dans le dictionnaire. Mais pour donner cette notion de la foi va de la semence jusqu'au fruit, il y a toute une étape de croissance qui amène la foi de la semence au fruit. Le germinateur, le fructificateur de la foi. Donc la foi n'est pas une adhésion intellectuelle à des vérités bibliques ou un credo. Et c'est d'ailleurs le cœur même de la démonstration de Jacques dans son chapitre 2. Mais c'est la foi en la parole de Dieu, la semence qui va produire le fruit. C'est exactement ce qui s'est passé pour Abraham. Et dans cette définition de la foi, vous voyez bien qu'il y a toute une étape de croissance, ce qui implique de notre part la persévérance et l'attente ferme dans l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu. L'exemple de la foi qui nous est donné, c'est par exemple celui de Paul, qui a reçu une foi obéissante dès sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas, mais surtout qu'il l'a gardée jusqu'à la fin. De Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » C'est-à-dire, j'ai gardé ma confiance dans la souveraineté de Dieu, malgré toutes les épreuves que j'ai subies. Le mal a été transformé en bien, l'adversité s'est transformée en autant d'occasions d'avancer avec Dieu et de le voir se révéler. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8. Donc la première phase de ce parcours de foi d'Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, Genèse 12, verset 1. Alors, sans entrer dans les détails, Abraham avait, alors d'abord géographie, le croissant fertile. Alors, pour vous, là, donc le croissant fertile va de Ur en Chaldée en Babylone, ça va jusqu'à Haran, à la pointe nord, et ça redescend ensuite tout le long de la côte dans le pays de Canaan. C'est le père qui avait pris l'initiative de quitter Ur en Chaldée, ils se sont installés à la pointe nord, le père meurt, et c'est là que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et descends en Canaan, vers le pays que je vais te promettre. Mais là encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce n'était pas tellement la terre qui intéressait Abraham. Puisqu'il est dit qu'Abraham, dans Hébreux 11, versets 10 et 16, il avait en vue la cité céleste. Il avait en vue la patrie céleste. Donc on voit qu'il y a un travail qui se fait déjà dans Abraham. Ce n'est pas tellement le lieu qui compte. Mais en quittant la patrie terrestre, ça sous-entend qu'il quitte ses dieux, il quitte ses traditions. C'est véritablement un déracinement et une replantation ailleurs. Donc, lisons-le de manière spirituelle. Un arrachement pour commencer à former, à dépouiller l'homme ancien et commencer à former l'homme nouveau. Mais c'est une séparation également avec Lot, que je vois là comme le symbole de la mondanité. Lorsqu'il y a eu une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, Abraham dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Choisis. Et qu'est-ce qu'a choisi Lot ? Une plaine fertile qui était comme un jardin de l'Éternel. Ah, c'était beau, hein ? C'était prometteur. Mais en plein milieu, il y avait la ville de Sodome. Et on sait ce que ça va donner ensuite en Genèse 19, le jugement terrible qui va tomber, et dont Lot n'a échappé que vraiment par la grâce de Dieu et à cause de l'intercession d'Abraham. Donc la séparation avec la mondanité, ce qui est attirant pour le regard, la facilité, le jardin de l'Éternel. Et enfin, une séparation, non pas avec les richesses, parce qu'Abraham était fort riche, mais avec l'amour des richesses. On le voit très bien dans cette guerre à laquelle il a participé avec le roi de Sodome. Et le roi de Sodome se propose de donner part du butin à Abraham. Et Abraham refuse. Rien entre toi et moi. S'il avait été livré à l'amour de l'argent, il aurait tout accueilli. Là, il a dit non, surtout rien pour moi. Je ne veux pas qu'on puisse dire que même par un seul fil, tu m'as enrichi. Donc, vous voyez, on voit là la distance qu'Abraham a, Abraham, a par rapport à sa propre richesse, puisqu'il était fort riche. Le point suivant qui concerne cette première phase, c'est la confiance d'Abraham en l'Éternel qui va être bâtie sur une promesse. Qu'on peut voir dans Genèse 12, verset 7 et 13, verset 15 à 16, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Mais au départ, c'est comme ça que je le lis, ça n'a pas l'air tellement de percuter Abraham. Pourquoi ? Je pense tout simplement qu'il est encore en capacité naturelle d'enfanter, et surtout sa femme est en capacité naturelle d'enfanter. Alors là, je vais faire une règle de deux un peu simple. Abraham, lorsqu'il est appelé, il a 75 ans, et il va vivre jusqu'à 175 ans. Alors, pour ramener les choses à notre proportion, je propose qu'on coupe en deux. Donc, Abraham a 75 ans, il a 38-40 ans, sa femme, elle a 65 ans, 10 ans de moins, donc elle est, on va dire, en dessous de 40 ans. Bon, ça va, Dieu me promet une postérité, je suis encore capable, et Sarai n'est pas trop âgée. Et on voit qu'il n'est pas insisté dans toute cette première partie, Genèse 12 à 14, « Je te donne une postérité, mais il n'est rien dit de plus. » Abraham n'a pas encore confronté la mort et sa crainte de la mort. Et la première manifestation de la crainte de la mort va lui être assez rapidement donnée. Lorsque, voulant explorer les limites du pays de la promesse, il descend un peu trop au sud, c'est-à-dire en Égypte. Alors on sait ce que symbolise l'Égypte, c'est l'exemple même du monde qui est rebelle à Dieu. Et c'est là, comme je l'ai dit au départ, qu'il dit « mais ils vont me tuer les Égyptiens !» Et il fait un deal avec sa femme. Et là, ça m'a inspiré la pensée suivante, que chacun y réfléchisse, parce que je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Notre parcours de foi n'est-il pas l'orienter le long de notre péché le plus profond ? Autrement dit, le péché d'Abraham semble être la crainte de la mort, mais la crainte particulière d'Abraham à l'égard de la mort va devenir l'occasion et le prétexte pour Dieu d'une révélation universelle, celle de la résurrection. Dieu est donc capable de changer notre propre mal en bien supérieur. Et je conclus juste ce point-là en disant, n'est-ce pas dans la recherche de Dieu pour la guérison de notre mal le plus profond, que Dieu se révèle dans une dimension toute personnelle et puissante, mais qui sert également de témoignage pour tous. Mais faut-il encore confronter notre mal le plus profond ? Et c'est précisément l'objet de la repentance sur laquelle je reviendrai. Mais toujours est-il que cette crainte d'Abraham a une conséquence terrible au départ, puisque Genèse 12, versets 14 à 20, nous montre clairement que Pharaon a couché avec Sarai. Voilà la conséquence de la crainte d'Abraham. « Je l'ai prise pour femme, dit Pharaon. » Est-ce que là peut être la raison pour laquelle l'accomplissement de la promesse à Dieu à Abraham, c'est-à-dire la venue d'Isaac, va être reporté de tant d'années, sa crainte de la mort a souillé sa propre femme. Et Dieu va attendre presque 25 ans avant de lui donner la postérité promise. Ça, c'est la première partie. Donc on voit que Abraham entend l'appel, il répond par la foi, il obéit, mais on voit que c'est encore les problèmes de crainte de la mort. Dans cette première phase en tout cas, ils lui sont révélés. Et là, il voit les conséquences terribles sur sa femme. Deuxième étape maintenant, qui couvre Genèse 15 à Genèse 21. En Genèse 15, il est dit, donc versets 1 à 6, je ne vais pas tous les lire, juste les points importants. La parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision et lui dit « Abram, ne crains point. » Ah, voilà. Donc, après ce qui s'est passé juste avant, on comprend que Dieu lui dit maintenant « ne crains point. » Exactement comme Jésus dit à Smyrne « ne crains pas. » « Je suis ton bouclier et ta récompense, ta rémunération. » Rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu est le rémunérateur, sera grande. Et Abraham dit, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. C'est l'héritier de ma maison, Éliézer de Damas. À l'époque, quand quelqu'un n'avait pas de descendance légitime, le propriétaire choisissait parmi ses serviteurs quelqu'un qui est né dans la maison, qui est fidèle, qui a les intérêts de la maison à cœur et va le nommer fils d'adoption. Ici, l'héritier d'adoption, c'était Éliézer de Damas. Mais Dieu lui répond, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est bien celui qui va sortir de tes entrailles, sous-entendu de ta femme légitime, qui sera l'héritier. Et c'est là que Dieu lui dit, que la parole dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc là, Abraham, il a quitté la maison, donc Haran, il l'a quitté à 75 ans. La prochaine fois qu'on le retrouve avec l'épisode d'Ismaël et d'Agar, c'est à 85 ans. Donc ici, il est quelque part entre les deux. Il n'y a pas de date qui permette de savoir quand on est, mais il a entre 75 et 85 ans. Et là, on voit qu'il commence à douter. Mais tu m'as promis une postérité, je ne l'ai toujours pas, je commence à vieillir, oui, mais Sarai commence à vieillir, et mon seul héritier va être Éliézer de Damas. Et Dieu le rassure, et c'est la première fois qu'il est dit, donc la justification est imputée à Abraham. Je dirais qu'Éliézer, c'est l'héritier selon la volonté de l'homme. Pour reprendre la parole de Jean 1, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lui, c'est l'héritier selon l'homme, la volonté de l'homme, c'est-à-dire le choix d'Abraham. C'est un choix parfaitement naturel, mais c'est le premier rival mentionné à la postérité promise, le deuxième étant Ismaël. Et avant d'arriver Isaac, il faut passer la barrière d'Éliézer, puis la barrière de Ismaël. Éliézer, Ismaël. Troisième voie, Isaac. Cette Éliézer représente donc, pour moi en tout cas, l'homme naturel, humaniste, celui que l'on choisit pour ses qualités de fidélité, de gestion, de fidélité à la maison. C'est cet homme-là. Alors maintenant, deux, trois remarques. La première, c'est qu'en Genèse 15, il est mentionné pour la première fois que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice. Mais vous remarquerez que la foi d'Abraham a commencé bien avant, en Genèse 12, qu'elle a été une réponse à l'appel et qu'elle était déjà obéissante, nous dit Hébreux 11. Ce n'est qu'en Genèse 15 que la justice lui est imputée. Ce que je veux dire par là, c'est que la foi par laquelle Abraham est justifié a déjà une histoire, marquée, comme je l'ai dit, par les séparations et par l'obéissance. Maintenant, cette foi-là, qui justifie Abraham, va être éprouvée par l'attente. Et celle qui va défaillir, c'est Sarai. Pourquoi ? Parce que un homme peut engendrer jusqu'à très tard. Il y a une limite pour la femme. Et là, Sarai commence à voir la limite. Et elle commence à s'inquiéter. Dans Genèse 16, c'est elle qui pousse Abraham, qui a maintenant 85 ans, elle en a donc 75. Si j'applique ma petite règle de 2, elle approche là maintenant des 40 ans, ça devient limite. C'est Sarai qui va mettre Agar dans le lit de son mari pour engendrer une postérité. Et cette postérité, c'est Ismaël. Donc Abraham, par faiblesse, a écouté sa femme comme Ève avait écouté Adam. Et Ismaël va naître un an plus tard, Abraham a 86 ans. Il est né d'Agar l'Égyptienne. Et ce qui est intéressant, c'est que Ismaël, de même que j'avais qualifié Éliézer de celui qui est héritier selon la volonté de l'homme. Ici, Ismaël est héritier selon la volonté de la chair. Et cet Ismaël devient le deuxième rival après Éliézer figurant l'homme humaniste, c'est Ismaël figurant l'homme religieux. Et quand nous attendons année après année l'accomplissement de la parole de Dieu, combien il est tentant pour notre chair de prendre les choses en main et de nous faire religieux, de vouloir commencer à chercher notre justice devant Dieu, à faire des efforts pour plaire à Dieu. Caïn. Donc Ismaël est l'image de l'homme religieux. Et là, j'ouvre une parenthèse avant de reprendre le fil de l'histoire d'Abraham sur cet homme religieux. Parce qu'il pointe directement sur le rôle de la loi. Et c'est très intéressant de voir l'usage que fait Paul dans Galates 4 de cette opposition qu'il y aura entre Ismaël et Isaac, entre l'homme religieux et l'homme spirituel. Puisqu'il dit que Sarai et Agar sont les symboles de deux alliances, et les fils, l'un est né de l'esclave selon la chair, Ismaël, tandis que l'autre est né de la femme libre en vertu de la promesse, Isaac. Donc, il y a un détournement négatif de la lettre de la loi qui mène à la quête de la propre justice. Je ne vais pas développer ça. Dans les évangiles, on voit très bien que les Sadducéens, et en particulier les pharisiens, étaient pétris de cet usage de la loi, selon la lettre, pour leur propre justice, se voir juste devant Dieu et non pas pécheur comme la plèbe. Mais il y a un usage positif, éclairé par l'Esprit, de la loi. C'est cette loi éclairée par l'Esprit qui mène à la mort, à toute justice, à la propre justice. C'est ce que dit Paul dans Galates 2, c'est par la loi que je suis mort à la loi. C'est parce que j'ai essayé d'accomplir la loi et de plaire à Dieu par ma vie propre, ma théologie, mes bonnes œuvres, moi, c'est à force de me casser le nez à cette manière de faire que j'ai fini par abdiquer devant Dieu quant au fait que je puisse plaire à Dieu par moi-même, par ce qui vient de moi. C'est par la loi que je suis mort à la loi. Et ce processus de mort à la loi, alors là je sais qu'il y a controverse quant à l'interprétation, mais c'est comme ça, j'ai toujours lu Romains 7, c'est cette lutte entre le bien et le mal. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux chanter, je le fais quand même. Et je trouve par conséquent une guerre entre mon homme intérieur et la loi de péché qui est dans mes membres, qui me pousse à crier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7 est le récit d'un échec quant à l'idée de pouvoir accomplir la loi par soi-même, par cet écartèlement entre le bien et le mal, puisque tous, selon l'homme naturel, nous avons mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et on sait donc par la parole que le dépassement de cette lutte-là viendrait par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort, Romains 8, 1. Le point clé de ce passage-là, c'est Romains 7, verset 1. La loi exerce son pouvoir sur l'homme autant qu'il vit. Et j'ai dit tout à l'heure que le dépassement de la crainte de la mort, c'est la mort à soi. Autrement dit, tant que je vis à moi-même, celui qui voudra sauver sa vie, il la perd. Si nous la perdons à cause de Jésus, nous la retrouvons. La loi exerce son pouvoir sur l'homme tant qu'il vit. Donc si je veux échapper à la loi qui est la puissance du péché, il faut que je meure. Mais si je meurs en moi-même, c'est la damnation. Donc il faut qu'un autre soit mort pour moi et m'entraîne dans sa mort et sa résurrection. C'est le cœur de l'évangile. Je n'aime pas trop citer des auteurs, mais là je vais quand même me le permettre. Je vais citer Calvin. Donc dans son livre 3, que je trouve génial personnellement, au chapitre 11, verset 13. Section numéro 13. Quand je dis que je trouve Calvin génial, ce n'est pas pour élever un homme. Comprenons-nous bien. Parce que je pense que en résumant l'évangile en une question d'union à Jésus en sa mort et sa vie, il a trouvé, à mon sens, en tout cas c'est ce qui me parle, la formulation la plus concrète de ce qu'est l'œuvre de Jésus à la croix. Donc quand on parle d'union à Jésus dans sa mort et dans sa vie, on parle en fait du message de la croix, qui implique la mort et la vie. Voilà ce que dit donc Calvin, livre 3, section 11, ou chapitre 11, section 13. L'apôtre Paul dit qu'il a réputé toutes choses comme fiente, comme boue, pour ne pas dire autre chose, pour gagner Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant point sa propre justice, qui est de la loi, mais celle qui est de la foi en Jésus, à savoir la justice qui est de Dieu, par la foi. Il montre, Paul, qu'il faut que celui qui veut obtenir la justice de Christ abandonne la sienne propre. Si en dressant notre propre justice, nous rejetons celle de Dieu, pour obtenir la seconde, c'est-à-dire la justice de Dieu, il faut que la première, c'est-à-dire notre propre justice, soit entièrement abolie. Et c'est ça le but de la repentance. La repentance vise, par la loi éclairée par l'Esprit, à abolir notre propre justice, notre confiance en nous-mêmes, en nos capacités par nous-mêmes de plaire à Dieu. Autrement dit, la repentance n'est pas une œuvre dont nous avons l'initiative. Plusieurs passages de la parole montrent que c'est une initiative de Dieu, mais c'est également une obéissance à un appel. Et je vous rappelle que l'évangile commence toujours par l'appel à la repentance. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste précède Jésus. Donc, pour le formuler d'une autre manière, le prix de la grâce de Dieu, nous dit Bonhoeffer, c'est précisément cette perte de la propre justice. Je le répète, le prix de la grâce de Dieu, c'est la perte de notre propre justice. Quand Bonhoeffer parle de la grâce qui coûte, c'est ce dont il est en train de parler. Il y a un travail qui précède la mort. C'est le travail de la repentance. Voilà, je termine avec cette parenthèse, mais elle était importante parce que Ismaël est vraiment, on le voit dans Galates 3 et 4, il est vraiment l'image de l'homme religieux. Et le piège dans lequel nous pouvons facilement tomber lorsque notre foi est éprouvée par l'attente et que ça dure, non pas des jours, non pas des mois, mais des années, il y a la tentation du piège religieux. Hein, pour ma vie, il y a certains péchés dont il a fallu 30 ans pour en être délivré. Il y en a d'autres, ça a été rapide. Donc il faut de la persévérance. Il faut s'accrocher à Dieu et croire non seulement que Dieu existe, mais qu'il rémunère notre attachement à lui, notre désir de ne pas le lâcher. Parce qu'à qui irions-nous sinon? Mais il y a un prix à payer pour cela, le prix de la grâce de Dieu, pour recevoir la justice de Jésus, c'est la perte de notre propre justice. Et ce n'est peut-être pas par hasard, comme je l'ai dit, que la foi d'Abraham a œuvré et travaillé déjà de Genèse 12 à 14, avant qu'il ne reçoive la parole de justice en Genèse 15. Bien, je reviens au fil maintenant de l'histoire d'Abraham. Alors on l'a vu, il a reçu une belle promesse, je te déclare juste, mais voilà. Cette promesse, il la reçoit, comme je l'ai dit, entre 75 et 85 ans. On retrouve Abraham en Genèse 16, il a maintenant 86 ans, 11 ans après la promesse d'une postérité, qui n'avait pas trop pris à cœur au départ. Et voilà qu'à 86 ans, Ismaël naît. Et ensuite, donc je ne vais pas redévelopper tout ça, à 99 ans, Dieu lui apparaît et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Il a 99 ans, donc si je calcule bien, c'est 24 ans après l'appel. Et il n'y a toujours pas d'enfant. S'il a 99 ans, ça veut dire que sa femme en a 89. Vous divisez par deux, on a dépassé la ménopause. Il n'y a plus aucune possibilité pour Sarai d'avoir un fils. Vous voyez comment Dieu éprouve et teste. Et il amène Abraham et à Sarai à la pensée de la mort. Ça veut dire, je suis mort. Je ne peux plus engendrer là. Naturellement, il n'y a plus rien que je puisse faire. Et c'est là que se manifeste la foi d'Abraham. Romains 4, versets 18 à 22, on l'a lu tout à l'heure, j'en lis juste deux, trois extraits. Espérant contre toute espérance, il crut. Tout lui disait, par le visible et le naturel, que c'était impossible, mais il a espéré contre toute espérance. Sans faiblir dans sa foi, c'est-à-dire dans sa confiance en Dieu, il considéra, alors là c'est bizarre les traductions, parce qu'il est dit il ne considéra pas. Non, regardez l'original. Au contraire, il l'a confronté, le fait qu'il était mort et que Sarah ne pouvait plus engendrer d'enfant. Il l'a pris de face. Et malgré le fait qu'il l'ait pris de face et l'a vu, c'en est fini, sous l'angle naturel, Dieu m'a dit, donc je lui fais confiance. Et comme le dit Paul au verset 22 de Romains 4, c'est précisément pour cela que cela lui a été imputé à justice. Donc là, on est à 99 ans. On n'est plus en Genèse 15. Mais on voit que cette parole de justice accomplit son œuvre, ou comme dirait Jacques, la foi est en train de produire son œuvre. Et Paul nous dit dans Romains 4 que c'est précisément à cause de cette espérance contre toute espérance que cela lui fut imputé à justice. Donc la foi l'a amené jusque-là, jusqu'au seuil de l'impossibilité. Et cette prise en compte de la mort en son propre corps, puisqu'il avait près de 100 ans, nous dit Paul, et le fait que le sein de sa femme soit mort, me fait immédiatement penser à ce passage dans Romains 6, qui est la conséquence de l'union à Jésus en sa mort, devenant une même plante avec lui en sa mort, à savoir, faites votre compte que vous êtes mort. C'est la même chose. À un moment donné, nous faisons le compte que nous sommes morts. Et ce n'est pas quelque chose de positionnel quelque part dans la stratosphère, ça résulte, c'est le résultat même du travail de repentance. La repentance nous amène à cette mort à nous-mêmes, cette perte d'illusion sur nous-mêmes. C'est le constat de l'œuvre de la loi par l'Esprit de Dieu que de pouvoir dire « c'est par la loi que je suis mort à la loi », mais également « je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'y a décidément rien de bon. Et c'est quand je peux véritablement dire que rien n'est bon en moi que je peux dire tout est parfait en Jésus. » L'un va avec l'autre. Le regard de foi sur Jésus qui a été fait pour nous notre justice et notre sainteté est indissociable de « je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. » On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir la vie si on n'a pas la mort. Et c'est à cause de cela qu'Abraham, à 99 ans, a reçu le signe de la circoncision. Et là encore, Paul, au Romains 4, verset 11, nous dit qu'il l'a reçu comme sceau de la justice qu'il avait reçue par la foi. Donc là encore, la circoncision est la conséquence directe de la parole de justice qu'il avait reçue en Genèse 15. Vous voyez encore le lien ? Sa foi continue à produire des œuvres. Les œuvres d'obéissance, les œuvres qui viennent de Dieu, il n'y est pour rien. C'est la grâce de Dieu qui l'accompagne. Et c'est la grâce de Dieu qui le fait passer progressivement de la mort à la vie. Et donc là, je fais mon premier point de contact majeur avec Smyrne, puisque Dieu l'avait dit, donc « ne crains pas ». C'est exactement ce qu'il dit à Smyrne, « ne crains pas la Pâque que tu vas souffrir. » Et Jésus lui dit, « étant mort avant toi, en union avec moi, tu pourras passer également cette dernière épreuve. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui voudra perdre sa vie à cause de Jésus la retrouvera. Et la vie dont il est question, c'est notre vie propre. Ce sont des capacités propres. Ce sont nos énergies propres. En clair, c'est notre chair. Dernier petit point avant d'aller enfin vers la troisième partie. Bon, c'est bien tout ce que je viens de dire, mais la foi d'Abraham, il y a encore un peu de faiblesse. Et cela va se manifester parce qu'il a failli être une catastrophe. Lorsqu'il est allé à Guérar, donc Guérar, c'est près de Gaza, là encore, c'est proche, pas loin de l'Égypte. Lorsqu'il est allé dans le sud, une fois de plus, du pays, il entre dans le territoire de Guérar, donc le territoire d'Abimélec, Et à nouveau, Abimélec voit combien la femme d'Abraham est belle. Et là, par contre, c'est absolument frappant. Donc, se manifeste la crainte d'Abraham, Genèse 20. Ils vont me tuer à cause de ma femme. Mais surtout, je note une grande différence par rapport à l'épisode qui s'était passé en Égypte. C'est que là, Dieu intervient directement auprès d'Abimélec et lui dit, tu ne touches pas à cette femme. Et comme il est dit dans Genèse 20, verset 4, Abimélec ne s'était point approché d'elle. Vous voyez ? Et je pense que la raison profonde pour laquelle là, c'est Dieu qui intervient immédiatement, elle est très très simple. Moins d'un an après, Isaac naît. Il était hors de question qu'il y ait la moindre ambiguïté quant à qui est le père d'Isaac. Donc, au contraire de ce qui s'est passé à 75 ans et quelques en Égypte, là, Dieu intervient immédiatement auprès d'Abimélec, qui lui dit, mais c'est en toute innocence. Même Dieu lui dit, non, je sais que c'est en toute innocence, tu as été trompé par la duplicité d'Abraham, mais j'interviens justement pour empêcher le jugement sur ta vie. Et vous voyez que là, on a failli passer à côté de la catastrophe, parce que sinon, on se serait demandé, mais de qui Isaac est le fils ? Donc là, on est à moins d'un an. Donc là, maintenant, Dieu veille jalousement à l'accomplissement de sa promesse. Et c'est cela qui amène à la naissance d'Isaac, au chapitre 21, versets 1 à 7. Je ne vais pas développer ce point-là. Isaac naît. Et je bascule enfin vers la troisième et dernière partie du message. Donc là, maintenant, on va se focaliser sur Genèse 22. Et qui commence avec ce premier verset. Il arriva après ces choses que Dieu mit à l'épreuve Abraham. J'allais dire une dernière fois. On connaît tous l'épisode. Dieu lui dit, prends ton fils, va dans le mont que je te montrerai et tu le sacrifies. Et donc avec son fils, Isaac, il va marcher pendant 3 jours et aller sur le mont Moria. Le mont Moria, tiens, c'est le mont sur lequel est bâtie la ville de Jérusalem. Et même si ce n'est pas explicitement marqué dans la parole, je pense qu'on peut supposer sans problème que c'est le mont même sur lequel Jésus lui-même allait être sacrifié, le fils unique de Dieu, puisque là, Isaac est appelé ton fils, ton unique, même expression. Quel âge a Isaac ? Lorsqu'il est sevré, il a 5 ans. Il nous dit là qu'il porte le bois du sacrifice. Il n'est certainement pas enfant. Lorsque sa mère meurt, il a 37 ans. Donc, il a quelque part entre 5 et 37. Il peut porter du bois. Il est au minimum adolescent. Et certains commentateurs pensent, là encore, par analogie, mais il n'y a aucune preuve, mais par analogie avec l'histoire de Jésus, qu'Isaac avait 33 ans lorsque son père l'offre en sacrifice. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé ce sacrifice qui semble relever du paganisme le plus sanglant ? Est-ce à dire peut-être que Isaac avait pris dans le cœur d'Abraham plus de place que l'Éternel même ? Serait-il devenu une idole pour le père et la mère ? On ne sait pas. En tout cas, la foi d'Abraham est testée par le sacrifice d'Isaac. Hébreux 11, à nouveau, versets 17 à 19, nous disent « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. » Mais surtout, il nous dit pourquoi. « Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Et il y a une chose qui frappe, il y a deux choses qui frappent quand on lit l'histoire de Genèse 22. La première, Abraham répond immédiatement. Aucune hésitation, il prend dès le lendemain son fils, 3 jours de marche. Isaac lui demande, mais et le sacrifice ? Dieu pourvoira, que je prends vraiment comme une parole de foi. Et ce qui est frappant, donc, il ne faut pas l'oublier, Dieu dit, par Isaac va naître une postérité innombrable. Mais, antithèse, Dieu me demande de sacrifier Isaac. Le seul moyen de sortir de ça, et Abraham a eu 3 jours pour y réfléchir, tiens, 3 jours, 3 jours, qui correspondent aux 3 jours entre la mort et la résurrection, il a eu 3 jours pour dire, j'aurai une postérité par lui, mais Dieu me demande de le sacrifier, c'est que Dieu va le ressusciter. On remarque que Abraham n'a eu aucune hésitation. Vous voyez que là, la crainte de la mort, c'est terminé. Il a vaincu la mort c'est le premier dans l'histoire de l'humanité qui a eu la pensée de la résurrection. Il a vaincu, sa propre mort est vaincue. La mort de son fils chéri unique, pas de problème, Dieu va le ressusciter. Il n'a plus, il a la victoire sur la mort. Ou, comme je l'ai dit au départ, sur la puissance de mort qui était sur lui. Mais il y a une deuxième chose qui me frappe là-dedans. C'est la soumission d'Isaac. Parce que si effectivement, au minimum, il est jeune adulte, voire, comme certains le pensent, dans la trentaine, il avait largement de quoi résister à Abraham, qui avait 100 ans de plus. Abraham commence à être vieux, là. Hein ? Il avait largement de quoi. Et cette soumission, en ayant confiance au Père, ne peut évidemment que nous rappeler la soumission du Fils de Dieu qui s'abandonne à la volonté du Père à la croix. Alors même que c'était douloureux, alors même qu'à Gethsémané, il a connu l'angoisse de la mort. Il ne faut pas oublier qu'il était un homme comme nous. Il a connu cette angoisse de la mort. Mais il a vaincu la mort par cette parole « Tout est accompli ». Mais ce qui me frappe donc, autant c'est la foi d'Abraham en la résurrection, mais la soumission d'Isaac à l'initiative qui en fait ne venait pas de son père, mais qui venait de Dieu. C'est comme ça que l'on comprend pourquoi Jacques a pu dire, dans le passage qui nous a été lu tout à l'heure, « La foi d'Abraham agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, ici le sacrifice, la croix, la résurrection, la foi fut rendue parfaite. » Et encore plus étonnant, c'est ainsi que s'accomplit l'écriture qui avait été donnée en Genèse 15, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Jacques nous dit que c'est en Genèse 22 que cette parole reçue en Genèse 15 s'est trouvée accomplie. C'est le second point majeur donc, en connexion avec Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort. « Je te donnerai la couronne de vie. Et foi en moi qui suis mort et revenu à la vie, je te ramènerai à la vie. » C'est la promesse de Jésus à l'église de Smyrne. Et c'est exactement comme ça que l'a vécu Abraham. « Il me rendra mon fils par la résurrection. » Et cela renvoie à ces différents passages que l'on trouve dans les Écritures, par exemple dans Romains 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à nous unir avec le sacrifice de Jésus à la croix. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est ce qu'a fait Abraham dans sa première phase, rappelez-vous, Genèse 12 à 14, l'amour de l'argent, la religion, la patrie, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et en parallèle de ça, quelques chapitres avant, au chapitre 6, 13 et 19, versets 13 et 19, « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Donc on voit que la justice a une traduction concrète dans notre vie. On offre nos membres à Dieu, membres qui étaient le siège de la loi de péché. On offre ces membres comme instruments de justice. Et livrez vos membres comme esclaves à la justice pour parvenir à la sainteté. Donc on voit que la sanctification, ça veut dire la marche par l'esprit, passe par l'accomplissement de la justice en nous. Je vais revenir sur ce point-là. Donc voilà. On a vu donc les trois étapes de la vie d'Abraham, avec la promesse mais les hésitations du départ, une foi qui s'affermit au milieu et la foi qui est triomphante sur la crainte de la mort à la fin. Donc maintenant est le temps de la conclusion. Alors je reviens sur ce que Jésus avait dit à Smyrne. Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. En lisant à nouveau ces promesses-là, je pense à Jean 5. en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, et je pense avoir bien fait comprendre que croire, ce n'est pas une adhésion intellectuelle, c'est une marche avec Jésus. Autre manière de dire le mot foi étymologiquement, fides, renvoie à la confiance, qui est un état de repos du cœur, confiance en Dieu, et renvoie à la fidélité. Confiance, fidélité, état, action. Action, ça veut dire obéissance. Je ne parle pas des œuvres qui viennent de nous-mêmes. Donc, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Et donc, on a vu l'exemple avec Abraham, mais cet exemple-là est vrai pour nous. Donc, on a vu avec Abraham une foi vivante et obéissante et persévérante. C'est pour ça qu'il est le père des croyants. Il est notre modèle à tous. Hébreux 5, versets 8 et 9. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et pourtant, il est le fils de Dieu. Mais dans son humanité, il a fallu qu'il combatte par la foi, par la parole de Dieu, et apprenne l'obéissance. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Obéir à Jésus, c'est rechercher l'union à Jésus en sa mort et en sa vie, qui est la traduction concrète de l'œuvre de la croix en nous. Donc, je ne vais pas redévelopper là les trois étapes de la vie d'Abraham. Ce qui est important, c'est la dernière étape, la victoire sur la mort et la puissance de résurrection. Dans ce contexte-là, je mets toujours ensemble deux versets. Le premier, c'est Romains 8, verset 4. La justice, et écoutons bien ce qu'il dit, la justice de la loi est accomplie en ceux qui marchent par l'esprit. La traduction concrète de l'accomplissement de la justice de la loi en nous, c'est la marche par l'esprit. En clair, on ne peut pas séparer la justice ou la justification de la sanctification. La marque de l'accomplissement de la justice de la loi en nous, c'est la marche par l'esprit. Et je relis toujours ce passage avec son pendant concret dans Galates 5, verset 16. Ceux qui marchent par l'esprit n'accomplissent pas les œuvres de la chair. À nouveau, c'est une autre manière d'exprimer la grâce qui coûte dont parle Bonhoeffer. Et donc, je vais reciter pour la deuxième et dernière fois Calvin. Toujours le livre 3, chapitre 16, première section. Christ, et écoutez bien ce que dit Calvin, Christ ne justifie personne qu'il ne sanctifie en même temps. S'il justifie, il sanctifie en même temps. Voulons-nous donc recevoir la justice de Christ ? Il nous faut posséder Christ, premièrement. Or, nous ne pouvons le posséder sans être participants de sa sanctification, vu qu'il ne peut se déchirer en pièces. Le Seigneur Jésus ne se donne jamais à personne, il ne donne jamais à personne la jouissance de ses biens qu'en se donnant lui-même. Il les accorde largement tous deux ensemble, justice et sainteté, et jamais l'un sans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la justification n'est pas quelque chose que l'on reçoit en dehors de l'union à Jésus. C'est via l'union expérimentale à Jésus que se déroule et s'accomplit dans notre vie tout ce qui est en Jésus, c'est-à-dire sa justice et sa sainteté. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est de chercher Jésus, de nous attacher à lui, de nous repentir, de nous humilier devant lui pour qu'il soit exalté à nos yeux. Mais à nouveau, la justice n'est pas quelque chose que l'on reçoit en dehors de l'union à Jésus et certainement pas en dehors de la marche par l'esprit. C'est ce que dit Bonhoeffer, c'est ce que dit Calvin et je crois profondément que c'est ce que dit la parole. Donc la dernière parole pour conclure, parce que là je pense que... Voilà, il est temps de conclure. C'est la toute dernière parole. J'aimerais contextualiser un petit peu la crainte de la mort ou l'angoisse que cela peut susciter. Là, je vais donner un petit témoignage, parce que c'est bien aussi de donner, je pense, des témoignages pour l'édification de tous. Comme beaucoup ici, j'ai entendu le discours de notre président le 12 juillet. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'il a dit. Mais pour ma part, cela a suscité ou cela a réveillé une profonde angoisse. J'ai vraiment ressenti cette angoisse qui m'a valu une très mauvaise nuit. Et le lendemain, dans la prière, donc dans la journée, j'ai repensé au fil de ma vie, à toute l'histoire, la marche avec Jésus. Et le soir, donc, je priais par rapport à ça. Et c'est très rare, mais j'ai demandé à Dieu un signe. Parce que ça m'a vraiment, vraiment percuté. Et j'ai demandé à Dieu un signe. Et moins d'une heure après, un frère m'a envoyé un mail, un frère de Hollande, m'a envoyé un mail avec un lien vers un chant qui s'appelle, alors les anglophones le connaissent peut-être, « He is worthy ». Et ce chant-là, chanté en assemblée avec le chanteur et le répond de l'assemblée, quand j'ai entendu ce chant, je me suis mise à pleurer. Et je vous assure que je ne pleure pas facilement. Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions ne ressortent pas facilement chez moi, pour des raisons que certains connaissent. Je me suis mise à pleurer. Parce que quand j'ai entendu ce chant, « He is worthy », en fait, c'est un chant sur la parution de Jésus devant le trône de Dieu dans Apocalypse chapitre 5. Il est digne de recevoir honneur, gloire et louange. Il est digne, il est digne. Sauf que quand j'ai entendu ces paroles-là, j'ai pensé à tout ce par quoi Jésus a dû passer pour pouvoir être trouvé digne. Il est passé par l'angoisse, il est passé par la souffrance physique, il est passé par la mort de la croix pour pouvoir trouver digne. Et à partir de là, dans les 2 semaines qui ont suivi, pour arriver à avoir la victoire sur cette angoisse, j'ai pensé donc à ces 3 aspects. La souveraineté protectrice et sécurisante du Père, la communion avec les souffrances du Fils en tant que membre de son corps, et l'assistance et l'aide de l'Esprit pour pouvoir vaincre la crainte de la mort. Le contexte de tout cela, c'est la crise actuelle, à nouveau, je ne vais pas développer cet aspect-là, mais qui est profondément anxiogène et génératrice de peur. Certains aimeraient que la crise actuelle ne soit qu'un épiphénomène qu'on retourne à la normale. Il se peut, mais je n'affirme pas que ça aille de mal en pis. Et donc voilà, cette angoisse de la crainte de la mort, ou l'angoisse qui peut venir des difficultés, la peur qui veut venir de l'avenir, la réponse nous est donnée, passer par cette mort-là en union avec Jésus, en faisant confiance au Père, en communion avec le Fils, avec l'aide de l'Esprit. Et c'est ainsi que nous dit Paul, et là c'est mon tout dernier mot, Romains 8, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je vous rappelle que dès le départ, Abraham, quand il a reçu l'appel, il voyait déjà la cité céleste et la patrie céleste. Il n'était pas préoccupé par ce qui se passait sur la terre. C'est pour ça qu'il a vécu dans des tentes. Et mais c'est exactement ce qui était également vrai pour Jésus, Hébreux 12, verset 2. En vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Donc, ayant cette vision-là céleste, de la Jérusalem céleste qui nous attend, dont nous sommes les pierres vivantes, la joie qui nous attend par l'Esprit de Dieu, malgré les circonstances et les souffrances, les angoisses, les craintes par lesquelles nous pouvons passer. Je pense que c'est ça le cœur de la promesse de Jésus à l'Église de Smyrne, que je trouve particulièrement d'actualité pour nous aujourd'hui.